Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la fiction La Porte de Tannhäuser, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Philippe Alkemad, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui raconte l'histoire et la vie d'un auteur maître de la science-fiction. Un homme aussi instable que perspicace, fasciné par la notion du réel et les limites de l'humain. Philip K. Dick est né le 16 décembre 1928 à Chicago. Il publie sa première nouvelle en 1952, traduite 2 ans après en français. Il fut très vite reconnu comme un auteur important. Personnalité complexe, multiforme, excentrique et mystique, il a publié 40 romans, une grosse centaine de nouvelles. L'univers fictionnel de l'auteur reflète en réalité l'époque durant laquelle il écrit, les années 50, 60, 70. On y trouve ses paysages ravagés par le feu nucléaire comme Hiroshima et Nagasaki, ses affrontements entre l'Est et l'Ouest, écho de la guerre froide et de ses psychoses, et un univers policier terrifiant, obsédé par la sécurité des citoyens, issu des lois paranoïaques du McCarthyisme. Son œuvre est comparée à celle de Franz Kafka et de George Orwell, une œuvre visionnaire qui pose déjà les dérives et les impasses de la société de consommation. Certains de ses livres ont été adaptés au cinéma et sont devenus des films cultes comme Blade Runner, Total Recall ou Minority Report. Philip K. Dick a exploré des mondes futurs sans jamais quitter son bureau et sa machine à écrire. Il a porté un regard critique sur notre société, mêlant un doute existentiel sur la réalité qui l'habite. Autrement dit, le monde tel que nous le percevons ne serait qu'une illusion, un décor factice qui cacherait un double opaque, inaccessible et terrifiant. Philip K. Dick est mort en mars 1982 à Santa Ana, en Californie, 2 mois avant la sortie sur les écrans en juin de Blade Runner, l'adaptation faite par Ridley Scott de son livre intitulé « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Dans cette œuvre, les hommes et les androïdes se côtoient, la définition de l'espèce humaine semble se dissoudre. Serions-nous des hommes-machines en quête d'une rédemption ? Pour nous aider à continuer d'explorer cet univers fascinant, fantastique, inventé par Philip K. Dick, nous recevrons dans la seconde partie de l'émission Ariel Kirou, rédacteur en chef de la revue Vision Solidaire et co-auteur avec Yann Coquard du documentaire intitulé « Les mondes de Philip K. Dick ».
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
La Porte de Tannhäuser, de Philippe Alkemad. Une réalisation de Michel Sidorov.
C'est un monde où... Un monde où l'homme agit comme une machine. Un monde où la machine pense comme un homme. Un monde où le cœur, un monde où les sentiments sont et ne sont pas. C'est un monde machinal, d'hommes mécaniques, de joie et de peine mécaniques. Un monde hors de l'existence, bien loin de la seule réalité qui vaille. Un monde loin de l'amour.
Le 25 juin 1982, sortait sur les écrans américains Blade Runner, un film qui allait révolutionner l'idée que l'on se faisait jusqu'alors du cinéma d'anticipation. Tiré d'un roman de Philip K. Dick, l'histoire se déroule en novembre 2019 à Los Angeles, une mégapole glauque, au climat pluvieux et où la quasi-totalité de la faune a disparu. Dans ce monde post-apocalyptique, il existe des réplicants, sortes de robots à l'apparence humaine, mais dénué du sentiment d'empathie. Rick Deckard, un chasseur de primes, est chargé de les identifier à l'aide d'un test, puis de les retirer, c'est-à-dire de les éliminer.
Bonjour. Je suis Rachel Rosen, et vous êtes Rick Deckard, j'imagine ?
Je me dois de vous dire que venir ici n'était pas mon idée. Je veux que les choses soient claires.
Oui, le commissaire Bryant nous l'a expliqué. Mais vous représentez néanmoins le département de police qui ne croit pas que nos androïdes soient d'un grand intérêt.
Un robot humanoïde ne diffère en rien des autres machines. Il peut passer en un rien de temps de bienfait à danger. Et rassurez-vous, tant qu'il reste un bienfait, ce n'est pas de mon ressort.
Mais lorsqu'il se transforme en danger, vous entrez dans la danse? Vous ne le voyez plus que comme une grosse chose inerte qu'il faut... Comment dit-on déjà? Ah oui, qu'il faut retirer.
Avez-vous sélectionné un groupe test afin que je puisse...
Descartes s'interrompit. Il venait d'apercevoir un raton laveur. Jamais de toute sa vie, il n'en avait vu personnellement. Il ne connaissait cet animal que par l'intermédiaire de films 3D qui passaient à la télévision. Pour une raison quelconque, les retombées radioactives avaient frappé cette espèce presque aussi durement que les oiseaux. D'un réflexe machinal, il sortit son catalogue Sydney, tout écorné, et se mit en quête de la sous-catégorie raton laveur.
Philip Kindred Dick est né le 16 décembre 1928 à Chicago, dans l'Illinois. Très vite, ses parents divorcent et Phil reste seul avec sa mère, du côté de San Francisco, où il vivra la plus grande partie de sa vie. Après d'éphémères études de philosophie, il décide de se consacrer entièrement à l'écriture et son premier roman, Loterie solaire, est publié en 1955. En 1977, il quitte la région de San Francisco et s'installe dans une maison à Santa Ana, près de Los Angeles. C'est là que nous le retrouvons en 1982, quelques semaines avant qu'un accident vasculaire ne l'emporte.
Monsieur Philippe Cadic?
Oui.
Bonjour, Pierre-François du Journal du Cinéma. On s'est parlé hier soir au téléphone.
Ah oui, bien sûr. Entrez, je vous attendais.
Pardon, je ne pensais pas arriver aussi facilement. Je suis peut-être un peu en avance.
Non, pas du tout. Je vous assure que je vous attendais.
Bon.
Tenez, on va se mettre au salon. On sera plus à l'aise.
C'est par là?
Oui. Ne faites pas attention au désordre.
Je vous rassure tout de suite, c'est aussi comme ça chez moi.
Tenez, on va se mettre ici. Je vous sers un café ou une bière?
Ce que vous prendrez.
Alors, va pour une bière.
Je suis ravi de faire cet entretien. Vous savez que vous êtes populaire en France?
J'ai pu me rendre compte quand je suis allé à Metz il y a 5 ans.
Ah bon, vous connaissez la France?
C'est une des rares fois où je suis sorti du territoire américain. Mis à part le Canada.
Je vois. Et il y a longtemps que vous vous êtes installé ici?
À Santa Ana?
Oui.
Depuis 77.
Au départ, je pensais que vous habitiez Berkeley. Comme quoi, on se fait souvent des idées.
Tenez.
Merci.
Vous n'avez pas vraiment tort. J'ai habité Oakland, qui est au sud de Berkeley. Les deux villes se touchent. C'est sur la baie de San Francisco. Vous connaissez Oakland?
De nom, oui. Mais je n'y suis jamais allé.
J'ai pas mal bourlingué dans ma vie. Mais toujours sur la côte ouest. J'ai même vécu à Vancouver. À l'époque, je militais contre la guerre du Vietnam. Un jour, j'ai senti que le FBI me cherchait des noises. Donc le Canada, on peut dire que c'était une forme d'exil volontaire.
Je vois.
Vous voulez qu'on commence l'entretien tout de suite?
Oui, si vous êtes prêt.
Bon, eh bien allons-y. Par quoi voudriez-vous commencer?
Eh bien, j'aimerais... Ça ne vous dérange pas que j'enregistre l'entretien?
Non, non, ne vous gênez pas, j'ai l'habitude.
Merci. Alors voilà. J'aimerais que l'on parle de vos livres en général, des idées qui font naître vos histoires... Et puis j'aimerais aussi en savoir un peu plus sur vous, votre façon de vivre, d'écrire aussi. Les lecteurs raffolent d'anecdotes relevant plus de la vie privée. Et puis bien sûr, je voudrais qu'on laisse une large part à votre roman dont est adapté Blade Runner. C'est aussi un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui.
Blade Runner. Ce n'est pas le titre du roman, vous le savez?
Oui, c'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi avoir changé le titre?
Ah, je ne sais pas si vous connaissez Hollywood, mais ils ont une approche des choses très commerciale. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? C'est un titre un peu trop long pour eux. Ils ont donc choisi Blade Runner, un titre que je trouve pas mal, à vrai dire, et qui est volé à un livre d'Alan North. Par la suite, William Burroughs l'a utilisé pour un scénario tiré de ce même roman.
William Burroughs?
Oui, celui de la Beat Generation.
Ah, d'accord.
Bref, tout ça pour dire que David Peoples, le scénariste de Blade Runner, a pas mal modifié l'histoire originale, tout en gardant l'idée qui a suscité le roman, l'attirance qu'ont l'un pour l'autre, Rick et Rachel.
C'est donc ça, l'idée de départ de votre roman?
Oui et non. C'est un peu plus compliqué. L'idée de départ, la vraie, c'est l'empathie. Vous savez, dans mon roman, Rick Descartes fait passer un test afin de déterminer s'il a affaire à un humain ou à un androïde. C'est le test de Voight-Kampff. Il pose à une personne un certain nombre de questions et les réponses apportées révèlent si cette personne a de l'empathie ou pas. En d'autres mots, s'il est une machine ou pas. Vous comprenez?
Oui, c'est comme ça qu'il rencontre Rachel d'ailleurs.
Absolument. Il est envoyé par le commissaire Bryant à la Tyrell Corporation, dirigée par Eldon Tyrell et sa nièce Rachel. Il faut imaginer ces personnages évoluer dans un monde post-apocalyptique, et à San Francisco, pas à Los Angeles, sur une terre quasiment dépeuplée, presque plus de faune vivante, juste des animaux électroniques, des chouettes, des crapauds, des ratons laveurs, des moutons, tous électriques, vous voyez? Et dans ce décor, il y a Rick et Rachel.
Barry, I'm Rachel.
Deckard.
Voulez-vous qu'on s'installe, inspecteur?
Je ne suis pas inspecteur, je suis chasseur de primes. On peut s'asseoir là?
Pourquoi pas?
Accordez-moi quelques secondes.
J'ai tout mon temps. Ça vous dérange si je fume?
Non, non. Ça n'affectera pas le test.
Qu'est-ce que ces choses-là sont censées mesurer?
Le disque adhésif, par exemple, mesure la dilatation capillaire dans la zone faciale. Et celui-ci détecte les variations de tension dans les muscles oculaires.
Chose qu'on ne détecte pas chez les androïdes.
Exactement. On peut commencer?
Oui.
Encore un instant. Voilà. Pour votre anniversaire, on vous offre...
Excusez-moi, c'est le test, ça?
Oui. Pour votre anniversaire, on vous offre un porte-monnaie en cuir, de la peau de veau.
Je le refuserai. Et je dénoncerai la personne qui me l'offre à la police.
Votre enfant vous montre sa collection de papillons ainsi que le bocal dans lequel il les tue.
Je l'emmène chez le psy.
Vous regardez la télévision, bien installée dans votre salon. Une guêpe se pose sur votre bras.
Je la tue.
Dans un magazine, vous tombez sur une photo de femme nue.
Hein?
Dans un magazine, vous tombez sur une photo de femme nue.
C'est un test d'empathie ou d'homosexualité?
Contentez-vous de répondre. Dans un magazine, vous tombez sur une photo de femme nue. Elle est allongée sur une peau d'ours. Et cette photo plaît beaucoup à votre mari. Il décide de l'accrocher au mur de son bureau.
Jamais je ne le laisserai faire ça.
Ok. Et celle-ci, vous lisez un roman photo d'avant-guerre. Un homme et une femme marchent le long d'un quai à San Francisco, quand soudainement ils décident d'aller manger dans un restaurant de poissons. L'homme commande un homard, que le chef ébouillante sous ses yeux.
Quelle horreur! C'est horrible! Il faisait vraiment ça à l'époque?
Répondez juste aux questions. Vous tombez enceinte d'un homme qui a promis de vous épouser. En fin de compte, il vous quitte pour votre meilleur ami. Vous décidez d'avorter...
Jamais je ne me ferai avorter. De toute manière, c'est impossible. C'est passible d'une peine à perpétuité et la police surveille ça de près.
Comment savez-vous ça?
Tout le monde le sait. C'est tout.
Vous avez l'air d'en parler par expérience.
Je... Non.
Bien. Une dernière question. Après une soirée agréable, un homme vous propose d'aller boire un verre chez lui. Vous acceptez ou bien préférez-vous...
Excusez-moi. Allô? Oui, plus tard. Non, je fais une interview pour une revue française. Eh oui. Bon, je te laisse.
Oui, je te rappelle plus tard. Ok. Désolé.
Il n'y a pas de mal. Ce test de Voight-Kampff existe-t-il vraiment?
Disons qu'il est inspiré des détecteurs de mensonges et du célèbre test de Turing. Mais puisqu'il est dans mon livre, il existe, non?
Oui, c'est certain. Et le test de Turing, vous pouvez me rappeler ce que c'est?
Le test de Turing? Une relation entre une personne et deux voix. Vous avez déjà entendu parler de ça?
Non.
Eh bien, vous mettez en relation une personne avec deux voix, celle d'un ordinateur et celle d'un autre humain. Ils ne se voient pas, bien entendu. Le test est concluant si la personne n'arrive pas à savoir qui est la voix de l'ordinateur.
On en revient à l'empathie.
Exactement.
Et comment vous est venue l'idée d'un monde où l'empathie est aussi déterminante?
Lorsque j'ai écrit Les Moutons, en 66, j'étais divorcé d'Anne. Je vivais une période de stabilité exceptionnelle avec Nancy, ma nouvelle femme. Nous avions une maison, on envisageait d'avoir un enfant, et en plus on avait pas mal d'argent.
Quand vous êtes-vous séparé d'Anne?
Au printemps 64. Bon, mais c'est une autre histoire. Bref, en 66, tout allait bien. À ce moment-là, j'opposais la chaleur de Nancy et la froideur des gens que j'avais connus auparavant. Je commençais à élaborer ma théorie de l'humain contre l'androïde, cet humanoïde bipède qui n'est pas d'essence humaine. Nancy m'avait révélé pour la première fois ce que pouvait être le portrait d'un être humain vrai, tendre, aimant, vulnérable. Et je commençais donc à opposer cela à la façon dont j'avais grandi et été élevé.
Je comprends. D'une certaine manière, Nancy avait de l'empathie, au contraire de vos autres femmes. C'est ce que vous vouliez dire?
Vous avez raison. Peut-être qu'avec Anne, cela relevait de ce sentiment-là. Même si je sais qu'avant tout, j'ai divorcé parce qu'elle ne pouvait s'empêcher de dépenser tout l'argent du ménage. Elle achetait des voitures de marque, bien entendu. Et puis, je sais que tôt ou tard, j'aurais subi le sort de son mari.
C'est-à-dire?
Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée juste avant notre séparation définitive. En septembre 64, exactement.
Anne ? Anne, je suis ici.
Salut Ray.
Du 4 au 7 septembre 1964, se tenait la 22e Convention nationale de la science-fiction à l'hôtel Leamington d'Auckland. Le dernier jour de la convention, Phil téléphone à Anne et à Ray Nelson, un ami auteur, et leur demande de l'accompagner à cette convention.
Tu as bonne mine.
Tu dis ça pour me faire plaisir.
Non, je t'assure, je suis sincère.
Je te remercie. Tu as vu Phil?
Allons boire un café, tu veux?
Tout va bien?
Ouais, mais...
Quoi mais?
Je crois qu'il est préférable que tu ne vois pas Phil aujourd'hui.
Ne me dis pas qu'il a remis ça.
Je crains.
C'est avec quoi cette fois-ci?
Des amphétamines.
Depuis quand s'est-il remis à prendre des amphétamines?
Un certain temps, et donc je te laisse imaginer la paranoïa, les visions et tout le reste. T'es sûr que tu veux pas aller boire un café?
Dis-moi exactement où il en est.
Eh bien, il dit que tu as voulu le tuer.
Mais c'est du grand n'importe quoi. Et comment je m'y serais prise?
Tu aurais essayé de l'écraser avec la Jaguar blanche et puis tu lui aurais tiré dessus avec un revolver.
Il va finir à l'asile, c'est pas possible.
Je lui ai dit que les enfêtes lui bousillaient la tête, mais il veut rien entendre.
Et où est-il en ce moment?
Il est dans la salle de conférence. Allez, viens boire ce café.
Non, je préfère vous laisser. Il n'a qu'à m'appeler un de ces jours. J'y vais.
T'es sûr? Tu veux que je te raccompagne?
Non, je vais me débrouiller.
Le lendemain de cet incident, Phil téléphone à Anne et lui demande de la rejoindre chez lui. Il veut essayer d'arranger les choses et parle même de se remettre avec elle. Anne décide de venir le voir avec Laura, leur fille de 4 ans.
Avec Laura. Phil.
Phil, tu es là? C'est Anne. T'es là? Tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette arme?
Va-t'en, laisse-moi tranquille.
Mais Phil, arrête. Qu'est-ce qui te prend? Je te signale que c'est toi qui m'as demandé de venir.
Je ne veux pas finir comme lui.
Comme qui?
Comme ton mari.
Mais c'est toi, mon mari.
C'est très bien ce que je veux dire. Je parle de Richard.
Calme-toi, Phil. Asseyons-nous et parlons.
Où est Laura?
Elle est dans la voiture. Essayons de parler.
Je t'ai dit de partir, de me laisser. Si tu insistes, je vais tirer.
D'accord, d'accord. Regarde, je m'en vais. Je m'en vais, Phil. Ne tire pas. Tu as entièrement raison. Je suis partie, regarde.
Pour les amphétamines, c'est la vérité?
Oui.
Et elle a vraiment voulu vous tuer? Les amphètes auraient pu changer votre perception des choses, non?
Vous pouvez me traiter de parano, j'ai l'habitude. Tout le monde pense que je le suis.
Je n'ai pas dit ça.
Il faut comprendre qu'à cette époque, j'étais si peu payé pour chaque livre que j'étais obligé d'en écrire beaucoup. Mon rythme était de 60 pages définitives par jour. Il faut avoir bien ça en tête. Alors oui, je prenais des amphétamines, qui m'étaient prescrites d'ailleurs. Et elle claquait tout le fric. Si je n'avais pas réagi, on aurait perdu la maison. Je crois qu'à un moment, j'ai pris la bonne décision.
Je comprends. Revenons-en à nos moutons.
À nos moutons électriques.
Vous pouvez m'expliquer en quelques mots la genèse du film?
Oui, le film. Déjà, il faut savoir quelque chose. En 68, à la sortie du livre, Martin Scorsese pensait peut-être en faire une adaptation. Mais pour finir, ça ne s'est pas fait. En 81, Ridley Scott et son producteur, Michael Daley, se sont lancés dans l'aventure. Je vous ai déjà parlé de David Peoples, qui se chargea de l'écriture du scénario.
Pourquoi pas vous? Cela me semble plus normal, non?
Non, ce n'était pas mon truc. Ils m'ont même proposé d'écrire une nouvelle version du roman d'après le film. Ça aurait pu me rapporter plus de 400 000 dollars. Mais bon, ces méga dollars m'ont laissé froid. Vous savez, moi, j'ai une vie d'asset. J'ai mes chats, un whisky de temps en temps, peut-être même un peu plus que de temps en temps, et je n'en demande pas plus. C'est ma vie. Finalité de l'histoire, j'ai exigé qu'on réimprime le livre tel que je l'avais écrit en 66. Et nom de Dieu, je pense que j'ai bien fait.
La différence est-elle grande entre le livre et le film?
D'une certaine façon, oui. Même si je pense que celui qui a lu le livre trouvera dans le film un parfait complément, et vice-versa.
C'est-à-dire?
La première grande différence, c'est mon San Francisco de 1992. Et leur Los Angeles de 2019. Le lieu et la date. Ça peut changer un crime. Mais bon, pourquoi pas. Pour le reste, on est dans l'esprit. J'ai un petit regret. Tout un pan du livre aborde le mercérisme. Et ça s'est passé à la trappe.
Pourquoi?
Je n'en sais trop rien, il faut demander au réalisateur.
Et c'est important à vos yeux?
J'ai imaginé le mercérisme comme une religion, où l'individu cherche à ressentir la passion d'un nouveau Christ, appelé Mercer, par le biais d'un appareil appelé boîte à empathie. Lorsqu'on y est connecté, l'on ressent violemment, jusqu'à en être physiquement affecté, le chemin de croix de Mercer, brutalisé et lapidé. C'est une forme de christianisme, si vous voulez.
Vous pensez que ça dérangeait, d'une certaine façon?
Oh non. Peut-être que ça compliquait trop le scénario. Mais comme je vous l'ai dit, il faut lire le livre et voir le film. C'est un parfait complément.
Vous avez pu assister au tournage du film?
Non, j'ai refusé. Si j'avais assisté au tournage, j'aurais fait une attaque. Déjà, rien qu'en lisant le scénario, j'avais été mis au parfum. Mais j'ai été invité il y a quelques mois afin de découvrir les décors et des extraits du film.
Ah bon? Et vous y êtes allé?
Naturellement.
C'est en juillet 81 que Philippe est invité par la production à une projection privée du film afin de découvrir une pré-version de Blade Runner de plus de 40 minutes.
Et celle-ci? Vous lisez un roman photo d'avant-guerre. Un homme et une femme marchent le long d'un quai à San Francisco quand soudainement ils décident d'aller manger dans un restaurant de poissons. L'homme commande un homard, que le chef ébouillante sous ses yeux.
Quelle horreur. C'est horrible. Il faisait vraiment ça à l'époque.
Vous pensez qu'on pourrait revoir le film une seconde fois?
Bien sûr. Vous êtes enceinte d'un homme qui a promis de vous épouser. En fin de compte, il vous quitte pour votre meilleur ami.
Ça vous plaît?
Vous décidez d'avorter.
Jamais je me ferai avorter.
On en parlera plus tard.
C'est impossible. C'est passible d'une peine à perpétuité et la police surveille ça de près.
Je vais demander qu'on le relance une deuxième fois.
C'est tout.
Vous avez l'air d'en parler par expérience.
Je
reviens.
D'accord.
Non.
Bien. Une dernière question. Après une soirée agréable, un homme vous propose d'aller boire un verre chez lui. Vous acceptez. Une fois chez lui, vous apercevez au mur une affiche de corrida.
C'est quoi une affiche de corrida ?
Le plus souvent, des dessins montrant un matador avec sa cape combattant un taureau dans une arène. Mais quel âge avez-vous ?
Et alors ? Qu'en pensez-vous ?
C'est dingue. J'ai l'impression que vous avez lu dans ma tête. C'est possible, ça ? Vous lisez dans la tête des gens.
Non, non. Mais il faut croire que Rick Descartes m'a inspiré.
À ce point. C'est comme si mon cerveau projetait sa vision du monde sur cet écran.
Je suis content que ça vous plaise.
Ceci dit, je suis pas étonné. J'ai lu la version actualisée du scénario et je trouve qu'on lui a donné un vrai coup de jeune.
Je vais vous faire une confession. Je n'ai pas lu votre livre. J'ai travaillé uniquement à partir du scénario.
Que sur le scénario ?
Essentiellement. Et sur quelques détails de votre vie.
Des détails de ma vie ? Comme quoi ?
Eh bien, par exemple...
Il faut m'excuser, mais c'est toujours comme ça ici. Le téléphone n'arrête pas. Allô, oui. Alors on a bientôt terminé. Bon. Pas mal. Non, j'ai pas oublié. Oui. Laisse-moi voir. D'ici un quart d'heure. À tout de suite. Désolé, mais je vais devoir m'absenter.
Je comprends.
Vous n'avez qu'à revenir demain, on continuera l'entretien.
J'ai mon avion demain à 10h.
Une prochaine fois, alors.
Chez vous, ce n'est pas la porte à côté, mais bon. Pourquoi pas? Une dernière question avant qu'on se quitte. Quand Ridley Scott vous dit quelques détails de votre vie, qu'entendait-il par là?
Ah. Il savait, par exemple, que j'avais une sœur jumelle, morte à l'âge de 15 jours, de faim et de mauvais soins, par la négligence de ma mère.
Ah. Je n'étais pas au courant.
Je pense que c'est un détail important dans ma vie et dans ce que j'écris. Toutes ces années, j'ai été obligé de vivre deux vies, celle de ma sœur et la mienne, vous voyez. C'est comme pour la littérature. Très tôt, j'ai aimé les histoires de science-fiction. Mais j'ai également lu Proust, Joyce, Balzac. Pour moi, il y a toujours eu deux mondes. Et jamais, je ne sais quel monde est mon monde et quel monde ne l'est pas. Et ça, ça m'a toujours fait peur. Mais il faut vivre avec. Je vous raccompagne jusqu'à la porte.
Si jamais vous passez par Paris, appelez-moi.
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais je vous avouerai franchement qu'il y a peu de chance.
Sait-on jamais.
Vous avez un parapluie ?
Mon sac fera l'affaire. Bon ? Ravi de cette rencontre ?
Ravi, moi aussi.
Allez, je me lance. À bientôt !
À bientôt. N'est-ce pas une expérience étrange de vivre dans la peur ? En réalité, c'est ça, être un esclave. J'ai vu des choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.
des vaisseaux en flammes sur la ceinture d'Orion, des rayons cosmiques scintillés à la porte de Tannhauser. Et quand je mourrai, tous ces moments seront noyés dans le temps, comme des larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.
C'était « La porte de Tannhauser » de Philippe Alkemad, avec Patrick Karl, Philippe Kadic, Louise Pasto, Rachel, Hassan Timbo, Rick Descartes, Anthony Audou, Pierre-François, Olivier Peigné, Ray Nelson, Joanna White, Anne, Christophe Allwright, Ridley Scott. Bruitage, Sophie Bissons. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Myriam Guillot. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Michel Sidoroff.
Affaires sensibles, la fiction.
Blade Runner, moi j'ai un petit peu de problème pour en parler parce que je fais un rejet total de la science-fiction.
Ah.
La Californie en 2020, qu'est-ce que je m'en tamponne ? Et il y a les androïdes qui sont bon, donc des répliques parfaites de l'être humain. Mais il y avait une formidablement bonne idée, c'est qu'ils n'ont pas de souvenirs d'enfance. C'est par là qu'on les coince. Et c'est donc une idée qu'on pouvait creuser. Or, pas du tout, on vous dit simplement, ils n'ont pas de souvenirs d'enfance, c'est comme ça qu'on les coince. Ah bon. Il y a, oh là là, il y a la nuit, il y a la mégalopole, oh là là, Bouduc, c'est impressionnant et tout. Mais enfin, ça fait pas deux heures. Hein.
Alors, ce que j'aime dans le film, c'est le côté série noire. Ça, c'est formidable. Si vous voulez, dans le décor, on voit que les choses ne sont pas neuves. On voit que les cabines téléphoniques qui ont des postes de télévision, comme on rêve d'en avoir, commencent à être couvertes de graffitis. Les rues sont pleines de boue. Il y a des voitures garées un peu partout. Enfin, il y a aussi des gens qui circulent en vélo. Moi, j'aime bien ce mélange comme ça. Le côté science-fiction même m'intéresse moins. C'est-à-dire le côté métaphysique de l'avenir, qui suis-je, dans quelle étagère, etc. Ça, c'est moins intéressant. Mais c'est un des péchés de la science-fiction. On tombe toujours dans un côté balourd comme ça. C'est vrai que le scénario souffre par moment et c'est un peu boiteux tout ça. Mais enfin, si vous voulez savoir à quoi ressembleront les villes dans lesquelles nous vivrons bientôt, ça vaut le détour. Pas d'accord. Le postulat du film, c'est que les villes vont s'élever en hauteur, et qu'en dessous du 60e étage, tout ce qui est en dessous, ça sera des HLM dégueulasses, il y aura des voitures qui passeront devant, des voitures volantes, etc.
Oui, c'est occupé par des squatters.
Au-dessus, ça sera très luxueux.
Ça n'est pas seulement une question de décorateur, c'est aussi une question de mise en scène. L'habileté de Ridley Scott, c'est d'avoir pris tous les éléments de sa construction futuriste dans la réalité contemporaine. Il imagine que Los Angeles, en 2019, ce sera une sorte de cité extraordinaire où il y aura un mélange de races entre les Asiatiques, entre les Espagnols, entre les Américains du Nord. Ce Los Angeles où il pleut tout le temps, où tout pourrit lentement, etc. C'est un univers de désespoir extrêmement pittoresque en même temps. Il est tout à fait morbide et glauque comme le dit Mardor, ça c'est vrai, mais ça tient debout.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui la porte de Tannhäuser. Notre invité Ariel Kirou, rédacteur en chef de la revue Vision Solidaire et co-auteur du documentaire intitulé Les Mondes de Philippe Cadic. Bonjour Ariel Kirou.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de la revue Vision Solidaire et membre du collectif de rédaction de Multitude. Vous êtes le co-scénariste avec Yann Coquard du documentaire Les Mondes de Philippe Cadic, et c'est pour ça que vous êtes avec nous, diffusé sur Arte en 2016. Et aussi, vous êtes auteur du livre, alors ça n'a rien à voir avec notre propos, Réinventer le travail sans l'emploi, c'était en 2017, dites-moi, c'est le revenu universel ça?
Non oui, tout à fait, bon. C'est le revenu universel.
Vous avez écrit et co-écrit de nombreux ouvrages, donc vous êtes également chercheur associé au COSTEC à l'Université Technologique de Compiègne, et vous enseignez l'histoire critique des cultures actuelles à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Et alors, vous confiez que vous aimez utiliser la science-fiction et l'art contemporain pour penser et penser notre monde d'aujourd'hui. Alors, penser PEN, puis penser PRN, d'accord
oui.
Alors, Ariel Kirou, quel lien entre Philippe Cadic, s'il vous plaît, et notre monde d'aujourd'hui, en 2018, je veux dire, quel écho porte son œuvre aujourd'hui?
L'écho est très fort pour une raison, à mon sens, assez simple. C'est que Philippe Cadic a exagéré son présent. Il voyait les années 50, il voyait l'Amérique des années 50, et puis il lisait. Tout ce qui le frappait, il en faisait une extrapolation. Et soudainement, il disait, tiens, réchauffement planétaire. Donc, il imagine, dans Le Dieu venu du Centaure, un monde à 80 degrés centigrades avec sa collection de vinyles qui fond, et puis un perroquet qui grille. Bon, l'extrapolation, l'exagération du présent de Philippe Cadic fait qu'à un moment donné, il nous parle. Il réinvente des mythes et il les met au diapason de son futur imaginé qui ressemble un tout petit peu, voire parfois beaucoup, au nôtre. Et ça se traduit comment ? Ça se traduit par une extrapolation à partir de la drogue, de ce que sont les réalités virtuelles. Ça se traduit par une extrapolation de la surveillance globale qu'on vit, de fait, aujourd'hui. Et notamment de cette façon que nous avons aujourd'hui d'être nos propres Big Brother à l'insu de notre plein gré.
Nous sommes des Orwelliens qui s'ignorent.
Et voilà, la paranoïa de cet auteur, au fond, a parfois frappé à côté, mais très souvent a frappé juste et beaucoup plus qu'on ne pouvait l'imaginer.
Et qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette critique du masque et de la plume qu'on a entendu tout à l'heure et qui dit, alors moi le côté science-fiction, je m'en fiche, parce que savoir ce que sera la Californie en 2020, je m'en tamponne. Madame, la Californie en 2020, comme la France d'ailleurs, c'est dans deux ans. Mais bon, c'était dit dans les années 80.
Oui, c'était dit. Bon, mais même au-delà de ça, déjà, ce qui m'est venu en tête lorsque j'ai écouté l'archive,
le
début de l'archive, c'est déjà ce constat très simple qu'un film comme Blade Runner, déjà, il parle pas simplement des robots, il parle des humains. La question centrale de Blade Runner, c'est pas qu'est-ce qu'un robot, c'est la question qu'est-ce que l'humain, en fait. Et qu'on mettrait à la place des robots n'importe quel type de minorité opprimée, que ce serait strictement la même chose. Et qu'à un moment donné, la clé, c'est effectivement Rick Deckard, le chasseur de réplicants, qui se rend compte qu'il n'est plus humain, parce qu'il n'est plus ouvert ou pas suffisamment à l'humanité qui se dégage de machines. C'est une question qui n'est pas simplement futuriste, c'est une question qui est éternelle, c'est une question qui est simplement mise au goût du jour ou de notre futur, ou de cet aujourd'hui au sein duquel on voit que nous allons vivre avec des machines, quelles qu'elles soient, qui vont parler.
Et l'intelligence artificielle.
Voilà, qui soi-disant vont parler, vont nous raconter des choses, qu'elles ressemblent ou pas à des humains. Donc au fond, finalement, ce que je me dis, c'est que cet écrivain, sans doute ce qu'elle n'a peut-être pas compris, c'est que la science-fiction déjà nous parle de l'aujourd'hui, nous parle aussi du demain et réinvente, remet au goût du jour des mythes éternels. Elle le fait parfois bien, elle le fait parfois mal. Il y a aussi de la science-fiction qui est du roman de gare, il y a de la science-fiction qui est de la philosophie ou du polar. Il faut juste peut-être potentiellement bien la choisir. Mais dire la science-fiction, je m'en tamponne, c'est ridicule en soi. Voilà. Donc ça c'est mon point de vue. Alors après évidemment, un film n'est pas un roman, hein, et que il y a du bon et du moins bon, y compris dans les romans de Philippe K. Dick.
Alors justement, qu'est-ce qu'il nous enseigne, Philippe K. Dick ? Vous avez dit ceci il y a quelques secondes, n'ayons pas peur des machines, finalement, que l'homme fabrique, hein, tombe pas toute seule. Voyons plutôt ce qu'elles peuvent nous enseigner, comment on peut vivre en harmonie avec elles. Alors c'est une question très prégnante, aujourd'hui, avec le développement de ce qu'on a appelé les nouvelles technologies, qui sont plus nouvelles maintenant. Mais c'est ça, le rapport qu'on doit trouver, nous, les humains, avec notre propre progrès.
Je dirais que les deux principales questions de Philippe K. Dick, c'est qu'est-ce que la réalité ? C'est l'interrogation sur cette réalité et la façon dont, alors quand on dit les machines, ça peut être la drogue, ça peut être, c'est de la manière dont l'artificiel, dont tout ce qui potentiellement est censé nous augmenter, peut aussi d'ailleurs nous diminuer et transforme notre réalité. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Philippe K. Dick avait tendance...
Aujourd'hui, pardon, la réalité, c'est l'homme bionique.
C'est l'homme bionique,
l'homme prolongé.
Voilà, mais
Des puces sous la peau.
Voilà, mais est-ce qu'il ne peut pas Est-ce que l'homme prolongé n'est pas l'homme diminué? Au fond, finalement, Philippe K. Dick a été l'un des premiers à sous-entendre que cet homme augmenté pourrait être un homme diminué, et à sous-entendre aussi que le véritable héros peut-être est peut-être un crétin, un raté, un moins que rien, mais qui sait se dépatouiller, qui sait bricoler, qui sait improviser. Hein. Et ça, c'est un point qui est très très fort chez Philippe K. Dick. Il y a cette question sur la réalité, et il y a cette question sur qu'est-ce que l'humain, qu'est-ce qui reste de l'humain. C'est-à-dire, avec toutes ces machines, toutes ces mécaniques, toutes ces cette surveillance globale et ainsi de suite, qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, malgré cette augmentation, malgré ce vertige, je vais rester humain. Et sa réponse à lui, c'est de dire l'humain, c'est l'empathie. Mais l'empathie qui nous permet d'aller contre la norme. Hein, l'empathie qui est aussi une rébellion.
Est-ce que c'est un homme clairvoyant ?
C'est vrai que la question est pas si simple que ça.
Non, moi je vois bien
parce
qu'il était bien,
parce qu'il avait quelque chose de chaotique dans sa création. Hein. Il écrivait comme une écriture automatique. Hein. Quelque part, c'est un fils des surréalistes aussi, Philippe K. Dick. Donc, est-ce que l'écriture automatique est de l'ordre de la clairvoyance. Hein,
voilà. Je dis ça parce que l'anticipation peut être adossée à la clairvoyance. J'ai vu avant les autres ce qui arrive. C'est pour ça que je vous posais la question.
La complexité, c'est qu'il était clairvoyant à l'insu de son plein gré. C'est qu'il cherchait pas forcément à être clairvoyant. C'est pas en prenant des équations, en prenant plein d'éléments, en ayant étudié un tas d'éléments pour dire dans 5 ans ça va être ceci ou cela, ou dans 10 ans ça va être ceci ou cela, qu'on est clairvoyant. On est parfois clairvoyant sans s'en rendre compte. Et c'est là où ça rejoint l'écriture automatique dont je viens de parler. Et je crois que Philippe K. Dick était clairvoyant à l'insu de son plein gré.
Ariel Kirouz, je ne sais pas ce que sera le monde dans 3 minutes, je ne sais pas comment on peut l'anticiper, mais on verra bien ce qu'il sera. Et pour nous, il sera ici, dans ce studio, pour continuer à parler de Philippe K. Dick, de son œuvre, pour avoir écouté un peu de musique. Donc. On vient de dire pas mal de choses sur Kali, Ariel Kirou, sur Blade Runner et au-delà, hein, parce que ça ne s'arrête pas à ce film-là et à ce livre-là. Donc, on va y revenir d'ailleurs avec son drôle de titre. Mais y a-t-il de l'humour chez Kadic ?
Oui. Oui, il y a beaucoup d'humour chez Kadic. Il se moque de lui-même en permanence, il se moque de ses personnages. Ses personnages sont habillés avec un pyjama. Il y a une scène qui est assez célèbre, c'est celle donc de Ubik, l'un de ses romans donc de la fin des années 60, où le personnage central qui s'appelle Joe Chip, qui est un contre-psy, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour essayer de répondre au pouvoir psy, c'est-à-dire de mutant en fait, hein, c'est une sorte de contre-mutant. Bon, et il a un dialogue avec sa porte. Voilà, la porte de son connap, c'est-à-dire de son appartement, hein, ou de sa maison, sa petite maison à la moindre moelle. Et il n'a pas un sou pour rentrer, et il se fâche avec sa porte, il prend un couteau pour essayer de l'ouvrir, et la porte la menace d'un procès, et il dit, mais je ne vais pas en mourir d'un procès. C'est une sorte de dialogue totalement fou. Donc c'est assez hilarant, et c'est ça qui est assez étonnant chez Philippe Kadic, c'est que c'est drôle, mais en même temps, ça a du sens dans l'aujourd'hui. Je me souviens avoir discuté avec un designer d'objets connectés qui s'appelle Adam Greenfield et qui m'a dit « Ce passage, aussi drôle soit-il, m'a démontré qu'il fallait qu'on apprenne la politesse aux machines. Qu'il fallait surtout pas les faire disparaître comme si de rien n'était. Au contraire, il fallait les rendre présentes et donner la capacité à dire non, en fait. Donc, quelque part, la fable la plus absurde, l'histoire la plus drôle, la plus grotesque, avec un personnage le plus nul qui soit, nous éclaire sur le présent. Étonnant, non ?
Tout à fait.
Comme diraient des proches.
Tout à fait. Ça fait penser d'ailleurs ce conflit entre l'homme et la machine, une très très belle illustration avec Kubrick, hein, dans 2001 aussi, où il est question vraiment aussi de ce rapport entre l'homme et la machine, ou comment on peut trouver une harmonie, ou comment il vaut mieux éviter le conflit. Hein. C'est intéressant.
Oui, 2001 de toute façon reste aussi une référence incontournable. Arthur C. Clarke, grand romancier, a été à l'origine en fait via une nouvelle, La Sentinelle, et via le roman qu'il a fait après d'ailleurs aussi de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et on est évidemment sur la même problématique, c'est-à-dire ce rapport au réel, ce rapport à la machine, ce rapport à l'humanité. Cette machine, donc HAL 9000, se rebelle, HAL 9000, est-ce qu'au fond, en se rebellant, en allant contre ces programmes, elle devient pas plus humaine que la machine qui se contente d'obéir? Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, et ça pose la question du rapport à la connaissance. C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, finalement, la connaissance n'est pas obligatoirement quelque chose qui nous échappe?
Alors, Kafka et Orwell, non, deux grandes références et deux grandes comparaisons, hein, avec Kadic. Il y a du Kafka, il y a du Orwell chez lui, sauf qu'il est dans ce domaine de la science-fiction qui peut être ressenti aussi comme un sous-genre et qui ne le mettrait pas au niveau de Kafka et Orwell.
C'était une obsession chez lui parce que au départ, il voulait vraiment être un écrivain mainstream, et ses premiers manuscrits mainstream de littérature classique, hein, ont été refusés par les éditeurs.
Ouais.
Et comme il n'arrivait plus à être vendeur dans un magasin de disques, parce que c'était ce qu'il était au départ en fait, hein, eh bien il s'est dit, je vais écrire. Bon, et comme ça foirait du côté de la littérature classique, il s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité avec la science-fiction et ces magazines qu'on appelle les pulp. Hein, les pulp, c'est-à-dire ces feuilles de chou hebdomadaires, le plus souvent, parfois mensuelles, qui publient en épisodes des nouvelles de science-fiction. Ou de fantastique, bon, avec ses gods et ainsi de suite. Et au fond, il a trouvé une énorme liberté dans ses pulps, et il a écrit entre 52 et 55 un nombre de nouvelles absolument hallucinant, bourré d'idées, sans aucune contrainte quelque part. Il a été comme contraint à créer, à imaginer, à extrapoler, et après il a utilisé ce socle de nouvelles en fait, de cette époque toute sa vie.
Et il a transformé pulp fiction en pulp.
Voilà, exactement.
Science fiction.
Et donc ce rapport effectivement à la science-fiction, je crois que en fait ça c'est ma conviction personnelle, je pense que les territoires de série B voire de série Z ont ce défaut effectivement d'être mal vus, mal compris parfois par l'intelligentsia X ou Y, notamment littéraire. Mais donc ça c'est le désavantage en fait, hein, c'est que effectivement on crée l'étiquette, et puis cette étiquette elle est plus ou moins dévalorisante. Mais en même temps, la science-fiction n'est pas un genre, c'est quelque chose qui nous libère complètement, qui libère les digues de l'imaginaire. Donc c'est un genre qui n'en est pas un et qui permet tout et son contraire. Donc au fond, ça a libéré cet auteur appelé Philippe K. Dick, qui lui a permis d'inventer comme jamais et de faire de la philosophie à sa façon, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait aussi bien avec la littérature classique.
Alors, grâce à Ridley Scott, évidemment un cinéaste de grand talent, Blade Runner a fait de Philippe K. Dick quelqu'un d'encore plus connu. Et alors, c'est tiré d'un livre qui s'appelle, moi j'adore ce titre, « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?»
C'est un roman assez fabuleux effectivement, qui date de la fin des années 60, 1968. Le paradoxe, c'est que « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» a des tas d'idées qu'on ne retrouve pas dans le film. Il y a notamment cette idée du mouton électrique. Hein, donc, c'est-à-dire de
cette créature. Nous, on dit mouton à cinq pattes.
Oui, voilà. Mais en fait, et il n'y a pas que le mouton, il y a également un cheval électrique, il y a également, en fait, tous les animaux, comme il y a eu une sorte de désastre, de cataclysme, est-ce que c'est nucléaire ou pas, mais en tout cas, le monde des androïdes rêvent-ils des moutons électriques, c'est-à-dire de Blade Runner, est un monde d'après l'apocalypse, non pas la fin du monde, mais d'après quelque chose qui a détruit quand même en grande partie la nature, voire même l'humanité. Et donc, il y a quasiment plus d'animaux. Et les gens adoptent des animaux électriques et ils sont plus ou moins empathiques par rapport à ces animaux électriques, comme effectivement le mouton. Et dans le film, il ne reste que la chouette, le hibou de la Tyrell Corporation, qu'on voit à un très très court moment, alors même qu'au cœur même de ce livre, cette logique de la créature artificielle, elle est absolument majeure. Dans le rapport Villani sur l'IA, il y a des nouvelles. Dans la deuxième nouvelle, il y a un chat artificiel. En fait, voilà, le Haïbo, qui était le chien artificiel de Sony, il a disparu. Il renaît depuis un an ou deux ans. C'est-à-dire, on se rend compte que la logique des animaux artificiels, des essaims, des abeilles artificielles, il y a un épisode de Black Mirror qui est autour de ces logiques d'essaims artificiels, des gens y travaillent très concrètement aujourd'hui. Donc, a disparu du film l'animal artificiel, qui est au cœur du roman, et qui est une illumination par rapport à l'aujourd'hui. Ce qui a disparu aussi, c'est la boîte à empathie, qui est un système de réalité virtuelle, en 1968, mais un système de réalité virtuelle mystique, en fait. Bon, donc, c'est un roman qui est bourré d'idées, dans lequel on a cette atmosphère qu'on retrouve dans le film, mais qui est d'une richesse extraordinaire par rapport à ce qu'on peut trouver dans le film de Ridley Scott.
Il vous passionne, hein? C'est bien, ça, c'est,
oui, oui, bah, a priori, c'est plus agréable pour soi d'être passionné, et j'espère pour les auditeurs.
En tout cas, Ariel Guirou, merci infiniment pour les éclairages que vous avez apportés, soutenus par votre passion du sujet.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui la porte de Tannhäuser, une fiction écrite par Philippe Alkemad, réalisée par Michel Sidorov et Anne Lioro, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Jérémy Guillon et Jean-Philippe Jeanne.